Donc avant de commencer hein, même à parler, je voudrais m'excuser au nom de Monsieur Macias, donc vous présenter ses excuses. Il n'a pas pu être parmi nous ce soir, pour des raisons bien évidemment indépendantes de sa volonté. Et donc il m'a chargé et j'ai la lourde tâche de vous présenter un petit peu ce concept d'autonomie institutionnelle dont on va parler pendant ces deux jours et d'essayer de clarifier les choses. Alors, pour être la plus simple possible, et vraiment, c'est un petit peu mon objectif, j'aimerais vous présenter en deux points. Le premier point, l'autonomie, qu'est-ce que c'est? Et deuxième point, l'autonomie, ben, pourquoi faire? Alors, pour l'autonomie institutionnelle, vraiment, je pense qu'il est nécessaire de comprendre qu'elle intervient dans un débat sur les différentes formes de l'État. Quand vous parlez d'autonomie institutionnelle, vous devez vous replacer dans cette conception de l'État au sens large. Alors, ne soyez pas inquiets, hein, ça va pas être du tout théorique, mais juste pour vous présenter un petit peu, imaginez ça comme un peu une graduation. Au plus bas de l'échelle, vous avez l'État unitaire, centralisé, et alors là, l'exemple qui vous vient en tête très facilement, je crois, pour la plupart, c'est la France. Et en bout de l'échelle, on a l'État fédéral, que là, vous aussi connaissez, l'exemple le plus flagrant sont, bien évidemment, les États-Unis. Et entre les deux, voilà où va se situer notre autonomie institutionnelle. On va avoir, je dirais, c'est là pour ça que j'aimais bien cette idée d'échelle, une gradation dans l'autonomie qui va être accordée au sein de l'État. Donc si on part de l'État unitaire, on a l'État unitaire centralisé tant qu'on le connaît, l'État jacobin français, et au bout l'État fédéral. Mais entre les deux, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'État régional. Alors il existe deux courants, on peut dire, hein, dans la doctrine qui tendent à penser que soit l'État régional existe en soi, en propre, en lui-même, soit c'est une composante de l'État unitaire. Simplement, l'État régional, il vient donner, gérer une liberté aux entités qui vont le composer et donner une liberté de gestion de leur territoire. Alors, si vous me comprenez bien, plus on va monter dans l'échelle et plus les entités qui composent l'État vont obtenir des compétences dans leur domaine. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Donc voilà où se situe l'État régional. Alors après, au sein de l'État régional, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs types de régionalisation ou d'autonomie institutionnelle. Alors j'emploie les termes, l'un, je pense, va avec l'autre, parce que je pense qu'au terme, le terme de régionalisation sert à caractériser un peu ce que j'entends comme étant un processus commun au niveau de l'Europe. Mais cette autonomie institutionnelle, elle va se rencontrer dans des pays de manière différente. Alors, il y a des experts ici qui en parleront beaucoup mieux que moi. Je pense par exemple à l'Espagne, on aura occasion d'en parler demain. Mais je pense là à la France, où la France, on peut la qualifier dans un État unitaire décentralisé et qui ne prend pas en compte la différenciation, si ce n'est, et c'est ça que c'est important ce soir, et je vais tout apprendre tout autant que vous ce soir, les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, qui sont les deux exceptions qu'on a en France d'autonomie institutionnelle. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus demain, je pense, et là, je serai peut-être plus à l'aise pour en parler, de cette régionalisation politique, avec l'exemple du Royaume-Uni, qui est un exemple particulièrement intéressant au niveau de cette prise en compte des différences locales, et s'étant en plus, avec cette particularité, je dirais, de l'asymétrie que vous connaissez tous au niveau du Royaume-Uni avec l'Angleterre qui est dominante. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec d'autres exemples, même s'il y en a des tas et vous les connaissez. La Belgique, par exemple, peut-être un État qu'on peut se considérer comme un État d'autonomie institutionnelle. L'Espagne, je l'ai déjà dit, est intéressante aussi. Et simplement, ça c'était vite fait mon premier point, d'autant plus que l'autonomie institutionnelle, elle a différents noms au niveau de l'Europe. C'est l'Espagne, l'État des autonomies, tel qu'on l'appelle. C'est en Grande-Bretagne, la devolution, la dévolution. Donc vous voyez un petit peu toute cette diversité qui est recouplée sous ce thème d'autonomie institutionnelle. Vraiment, s'il y a une chose qu'il faut comprendre dans ce que je vous dis, c'est cette c'est cette multiplicité des facettes qu'on a pour l'autonomie institutionnelle. Il n'existe pas un modèle d'autonomie institutionnelle. Je crois que ce qui est important, c'est que l'autonomie institutionnelle doit s'adapter et va s'adapter finalement à l'État et à la forme, au cadre de l'État. Je pense qu'on verra plus en détail avec vous. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, c'est l'autonomie, pourquoi faire ? Alors, deux objectifs principaux, je pense, et qui, d'ores et déjà, à mon avis, ne sont pas antinomiques, ils ne s'opposent pas du tout l'un avec l'autre. Le premier point, c'est la gestion de l'identité locale. C'est bien évidemment pour ça, en premier lieu, qu'est mis en place l'autonomie. C'est à un moment donné, on a une revendication, un besoin, localement, de prendre en charge ses propres compétences et de les adapter à nos propres besoins locaux. Le deuxième objectif principal dans l'autonomie institutionnelle, c'est l'indépendance. L'indépendance peut être en effet un objectif de cette autonomie. Pourquoi l'autonomie ne serait pas, et n'est-ce pas, une étape vers l'indépendance d'une collectivité, d'une nation qui obtient ses compétences ? Quand je disais que ces deux principes ne sont pas antinomiques, véritablement, on peut voir, et là je le sais, étant un peu plus experte dans ce domaine du Royaume-Uni, qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, l'exemple est flagrant avec l'Écosse, et notamment les nationalistes qui ont obtenu le pouvoir en mai 2007 en Écosse, elle est conçue comme une première étape vers l'indépendance. Donc l'autonomie institutionnelle peut servir dans un premier temps de gestion du local, concrètement pour vous, comment ça se passe, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, il y a des besoins qui sont locaux, qui sont nécessaires, et dans un deuxième temps, on a obtenu ces compétences, que reste-t-il finalement, à part obtenir l'indépendance, le symbolisme en fait de l'indépendance. Voilà, j'en conclurai très rapidement et je laisserai la parole aux intervenants suivants, en espérant vraiment que j'ai déblayé d'une manière peut-être un peu large, mais au moins le terrain que vous avez présenté, cette autonomie institutionnelle. Deux mots sur la France. En France, on est, comme vous le savez, très réticent avec cette conception. Quand je dis très réticent, c'est un doux euphémisme. Simplement, j'évoquerai rapidement la décentralisation de 2003, qui peut être cependant être considérée comme une avancée dans l'État unitaire décentralisé tel qu'on le connaît, vu qu'elle donne elle donne plus de décentralisation politique aux régions. Mais là, j'y mettrai tout de suite un bémol. Et c'est là une différence avec, à mon avis, l'autonomie institutionnelle. C'est que la décentralisation de 2003 telle qu'elle est prévue, c'est un modèle, si vous voulez, de droit commun. C'est-à-dire qu'elle s'appliquera de manière un petit peu uniforme aux différentes régions de la France. Or, et c'est vraiment là ce qui, à mon avis, fait la différence avec l'autonomie institutionnelle, dans l'autonomie institutionnelle, de ce que moi j'en comprends, c'est que ça vient du bas. Et donc ça vient d'une véritable demande et d'une adaptation à finalement une spécificité locale. Et donc voilà pourquoi la France, à mon avis, a encore du chemin à faire, même si, et c'est là très intéressant, même s'il faut aller en dehors de la métropole pour trouver un exemple d'autonomie institutionnelle en France, avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, qui sont deux types différents là aussi d'autonomie, comme je pense les intervenants vont le développer. On a par exemple pour la Nouvelle-Calédonie une autonomie d'indépendance, c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais dans ce que je vous avais dit au début, les deux étapes, soit la mode de gestion, soit l'indépendance. Et bien là est prévu dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie l'indépendance à terme. Et enfin, on a avec la Polynésie française une autonomie de gestion. Et là, je pense que ils développeront beaucoup mieux que moi ce qu'il en est en Nouvelle-Polynésie. Donc je vous remercie en Polynésie française. Merci beaucoup.